Donc, Véronique Desjardins est l'épouse et la disciple de Arnaud Desjardins qui nous a quittés il y a quelque temps. Que dire d'autre? Tout entière, elle était tout entière dans l'enseignement de Arnaud. Et ce que je pense qu'elle va partager, c'est à la fois sa façon de vivre cet enseignement, sa façon de vivre le départ de Arnaud, qui était à la fois son maître et son époux, et partager en fait donc de cet enseignement de Arnaud. Bienvenue Véronique.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis un peu embarrassée avec le thème de ce week-end, puisque nous venons d'assister à une prestation, selon moi, parfaite, avec une femme debout. Dans la tradition musulmane, quand on tisse un tapis, on laisse toujours une imperfection, parce que la perfection n'appartient qu'à Dieu. Donc la donne, nous sommes imparfaits. Toute la question est de savoir comment nous nous situons par rapport à nos limitations, nos imperfections. Est-ce que nous les acceptons ou est-ce que nous résistons de toute notre force? Est-ce que nous sommes fâchés d'être limités et imparfaits? Swami Prajnanpad, le maître d'Arnaud Desjardins, disait « Le sage est le connaisseur de sa mesure ». Il n'utilisait pas les termes de limite, limitation. C'était un scientifique. Et donc c'est simplement une question de capacité. Un verre d'eau ou une bouteille peut contenir un litre, mais ne peut pas contenir 1,5 litre. Et bien entendu, tout ça s'applique à nous, êtres humains. Quelles sont nos capacités? Un maçon peut peut-être soulever 50 kilos de ciment, mais s'il en soulève 60, il se fait mal. Et nous avons aussi nos limitations psychologiques. Nous sommes tous venus avec certaines déterminations intérieures. Nous avons vécu des blessures différentes pour chacun. Et donc, ce que nous pouvons supporter n'est pas la même chose pour chacun. Swami Prajnanpad disait aussi, et c'est une parole sur laquelle je me suis beaucoup appuyée dans mes activités à une époque où j'étais un peu partout dans l'ashram d'Arnaud à Hauteville, où je faisais beaucoup de choses. In the relative, Arnaud, dans le relatif. Dans sa jeunesse, Arnaud était très idéaliste, sans doute comme chacun d'entre nous, perfectionniste. Et Swamiji le ramenait au réel. Quoi que vous fassiez, votre action sera toujours limitée. Elle s'insère dans une chaîne de causes et d'effets, elle sera toujours relative. Bien entendu, cette question de mesure n'est pas si facile à décerner, sinon Swami Prajnanpad ne l'attribuerait pas comme une faculté du sage. C'est quelque chose que nous avons à nous interroger, parce que reconnaître ses limites, respecter sa mesure, ne signifie pas vivre au rabais. Donc comment allons-nous faire pour trouver notre réelle mesure, notre capacité. de façon à vivre notre vie dans sa pleine dimension, et non pas, je le redis, au rabais. Personnellement, j'aime ce terme de mesure parce qu'il ne comporte aucun jugement. Et c'est un terme qui nous permet de nous accompagner dans tout ce que nous avons à vivre au cours de notre existence, et Dieu sait s'il y en a. Nous pouvons toujours être avec ce terme. Quelle est ma mesure? Qu'est-ce que je suis capable d'assumer? Comment je peux m'accompagner dans tout ce que je traverse, dans tout ce que je vis? Et bien entendu, la mesure change au cours de notre vie. Elle n'est pas la même quand nous sommes jeunes, en pleine possession de nos moyens, débordant d'énergie. Et elle décroît avec le temps. En tout cas, notre énergie décroît. Peut-être aussi certaines de nos capacités décroissent. Et en même temps, au fur et à mesure que nous vivons, nous découvrons toutes les ressources en nous pour faire face à notre vie. Imparfait mais debout, ou imparfait et debout. Ce terme debout m'évoque l'être humain aux prises avec l'incroyable complexité, non seulement de son destin, mais de ce qu'il est lui-même, toutes ses contradictions. Et ça m'évoque aussi toutes les ressources, toute la créativité dont il va faire preuve au fur et à mesure que sa vie se déroule, se révèle à ses yeux. Je crois que plus nous avançons en âge, en tout cas c'est mon expérience, plus nous acquérons une certaine maturité et plus nous devenons conscients de l'immensité de la souffrance. Bien évidemment, les récents événements sont encore un aspect de cette incroyable souffrance à la surface de la planète. Et soit nous y sommes confrontés directement, ou plutôt nous y sommes confrontés directement, ou des proches, nous avons vu des proches dans de grandes souffrances, ou nous sommes dans une relation d'aide, médecin ou infirmière ou thérapeute, et nous sommes amenés à rencontrer des personnes qui vont nous parler. Nous savons que dès que les masques tombent, qu'on est vraiment à l'écoute de quelqu'un, on finit toujours par découvrir dans un cœur humain de la souffrance, et beaucoup de souffrance, souvent beaucoup de souffrance. Je me souviens comment, je ne sais pas pourquoi c'est plus ce souvenir-là que j'ai eu envie de vous raconter, comment la souffrance m'a prise de plein fouet, comment j'ai découvert à quel point elle est une donnée de notre existence. Mon père avait été hospitalisé pour un syndrome frontal, qui est un proche parent de la maladie d'Alzheimer, et ma belle-mère avait pris la décision de le placer dans cet hôpital. Et je suis arrivée pour le voir, et il y avait tous les patients dans une salle commune. Et j'en ai vu un que je voyais quand je rendais visite à mon père, qui était toujours seul, personne ne lui rendait visite, personne ne prêtait attention à lui. J'avais même remarqué que la personne qui le faisait manger de façon, le regardait de façon très distraite. Et cet homme passait son temps à se balancer d'un pied sur l'autre pendant des heures. Et je voyais ça comme... Voilà, il cherche un ancrage. Il a tout perdu, il a perdu toutes ses facultés cognitives, il n'a plus aucun environnement affectif et il cherche un ancrage. Il cherche désespérément un ancrage. Et puis nous sommes partis au Québec avec Arnaud comme nous le faisions chaque année. Et là-bas, j'ai fait une séance d'acupuncture. Et à l'issue de cette séance, je suis sortie dans un grand malaise. J'étais vraiment très mal. Je me demandais ce qui s'était passé. Et tout à coup, toute la scène de l'hôpital est remontée et je me suis mise à sangloter. Avec cette conscience aiguë de la souffrance de mon père, de la souffrance de cet homme, de la souffrance de tous ceux qui étaient dans cet hôpital et en même temps l'immensité, comme je disais tout à l'heure, de la souffrance à la surface de la planète. Et il me venait, dans mes sanglots, il y en a trop. S'il y en avait un peu moins, nous pourrions faire face, mais il y en a vraiment trop. Bien évidemment, nous ne vivons pas, et heureusement, toujours avec ce degré d'acuité, de conscience de la souffrance. Mais je pense que c'est une bonne expérience à faire. C'est une expérience qui nous ouvre le cœur. Je suis en train de voir ce que je vais sauter, là, comme vous venez de me mettre sous le nez les 5 minutes. Et surtout, je pense que... Enfin, j'expérimente, et je suis sûre que vous l'expérimentez aussi, que la souffrance nous plonge de plus en plus dans les grandes questions existentielles. Pourquoi nous sommes là sur Terre? Quel est le sens de cette vie? Est-ce que nous parvenons suffisamment à aimer, à donner? Quels sont les obstacles intérieurs qui nous empêchent de servir, comme nous sentons que nous sommes appelés à le faire? Dans une retraite de méditation que j'ai faite dans un centre bouddhiste, à un moment, un des instructeurs nous a dit « Bienvenue à tous vos cœurs brisés ». Étonnante parole, combien c'est vrai. Et en même temps, le cœur brisé, c'est une très bonne nouvelle. Parce que nous avons érigé autour de nous une muraille pour essayer de ne pas souffrir, moins souffrir. Et la vie, dans sa bonté profonde envers nous, nous envoie des épreuves, des chocs suffisamment forts pour que cette armure se brise. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de commencer à comprendre ce que c'est qu'une existence humaine. Nous croyons que l'existence humaine, c'est tout ce que nous avons de bon, d'heureux, et tant mieux. Et c'est vrai que nous cherchons à accumuler le bon et nous avons raison. Et en même temps, si nous n'avions pas ces expériences qui viennent nous briser le cœur, nous n'aurions pas la possibilité de comprendre ce que c'est que la vie humaine, l'incarnation humaine, dans toute sa dimension. Nous n'aurions pas la possibilité de comprendre le mystère. Quand je dis comprendre, je ne sais pas si on comprend vraiment, mais en tout cas, on s'en approche ou on pressent certaines choses. Et la souffrance, loin de nous abattre ou de nous anéantir, non seulement fait lever toutes ces ressources que nous avons en nous, mais nous permet d'embrasser la richesse de l'existence à un niveau beaucoup plus profond. Tant qu'on n'a pas souffert ou vu les autres souffrir, on n'a pas pu descendre vraiment en soi-même. Et c'est ce cadeau qui nous est fait. Ça va, vous n'avez pas besoin de lever votre petit papier, épargnez-vous le bras. C'est ce cadeau qui nous est fait avec les difficultés que nous rencontrons. Si, dites-moi, parce que je dis encore une chose. Je ne sais plus si c'est 2 minutes, 1 minute. 2 minutes. Une de mes amies chères, Dipamrita, qui dirige le centre d'Ama en France, qui est la représentante d'Amrita Nandamayi, m'a dit un jour, j'aime bien son humour et sa décontraction, elle me dit, mais les gens croient qu'ils sont là sur Terre pour être heureux, mais on n'est pas là pour être heureux, on est là pour apprendre quelque chose. Et en fait, nous apprenons dans la mesure où nous nous ouvrons à tout ce qui nous arrive. J'aime bien aussi ce dicton soufi, ce qui t'advient ne l'esquive pas. Donc notre vie est une immense leçon, et pour peu que nous ouvrions les bras, que nous accueillions, y compris la souffrance que les événements nous occasionnent, alors là, nous pouvons accéder à une beaucoup plus grande profondeur. Merci.